Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Mouloudji fut un des grands chanteurs populaires à une époque où la culture était populaire. La culture appartenait en effet au peuple et intéressait toutes les couches de la société. Cette culture a produit tous les grands artistes de l'après-guerre, de Jouvet à Vitez, en passant par Gréco ou Mouloudji justement. Mais elle comptait de grands philosophes aussi, bien sûr, comme Sartre, qui n'hésitait pas à écrire des chansons. Elle comptait des écrivains et des ministres même, si l'on pense à Malraux. Le petit garçon Mouloudji est né à Paris en 1922. Il fut découvert par Jean-Louis Barrault et commença par faire du cinéma. Il a publié ses souvenirs de jeunesse dans Le Petit Invité aux éditions Ballan en 1989 et dans La Fleur de l'âge aux éditions Grasset en 1991. Mais dans cette émission datant de 1953, je vous laisse découvrir le grand Mouloudji, l'artiste, le comédien, le chanteur et l'homme engagé dans bien des causes, contre la peine de mort par exemple.
Voici les mains musicales à Paris, Henri Spade et Robert Chazal présentent aux auditeurs et aux spectateurs de la radiodiffusion télévision française la joie de vivre. Émission publique télé-radio diffusée, animée par Jacqueline Joubert et Henri Spade. Avec aujourd'hui Mouloudji. Et Berthe Bovy, société honoraire de la Comédie Française. André de Chauvron, de la Comédie Française. Damia, Françoise Angèle, de la Comédie Française. Mick Michel, Lia Origoni. Et Paul Brafort, Henri Crolla, Serge Grave, Jean Peignet, Albert Préjean, Jean-Paul Roussillon, de la Comédie Française. Francis Valbray, speaker Charles Bassompierre. Avec, bien entendu, Robert Lamoureux, l'orchestre sous la direction du compositeur Jacques-Henri Riss et le public de...
Bonjour madame, bonjour mademoiselle.
Bonjour monsieur.
Aujourd'hui, la joie de vivre de Mouloudji.
Marcel Mouloudji, comédien, chanteur, etc., etc., né à Paris le 16 septembre 1922.
Et en ce temps-là, on rêvait aux Nuits de Chine.
Oui.
Thank you.
parlons de choses sérieuses. L'enfance de Mouloudji.
Oui.
Où étiez-vous, où habitiez-vous quand vous étiez un petit garçon?
Rue de Crimée, à côté des buts de Chaumont.
À côté des buts de Chaumont.
Oui.
Et qu'est-ce que vous faisiez là? Qu'est-ce que vous aimiez?
Bah, d'abord j'allais à l'école. À l'époque, il y avait une chose qui était bizarre, c'est que c'était Tino Rossi venait d'apparaître et avec Jean Lumière aussi. Alors dans la classe, on chantait tous avec l'accent corse. Alors par exemple, dans mon beau sapin, roi des forêts, ça faisait bizarre.
Je voudrais bien entendre Mouloudji chanter avec l'accent corse.
Moi aussi, alors.
Maintenant,
petit échantillon.
Je ne pouvais chanter qu'avec l'accent corse.
Ah bon?
Qu'est-ce que ça donnait?
Je ne sais pas. Enfin, je chantais viens, comme toi.
Oh, Moulou.
Mais vous n'avez pas eu un autre accent avant l'accent corse?
Un autre accent?
Oui. Vous n'avez pas eu l'accent limousin dans votre vie?
Ah oui. Quand j'étais petit, je chantais une chanson en patois. Que moi, je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire, mais...
Qu'est-ce que c'était?
Ça s'appelait Turlututu.
ça veut rien dire, Turlututu, même en français.
Oui, mais enfin, voilà, c'était... Tres jours, mi permenavo, tululundin, Turlututu. Ça, c'est très haut, là. Tululundin, lon, la lolirette, tululundin, buessou. Touloulundin, lolon, la lolirette, touloulundin, bouessou. Et puis le monsieur, il raconte qu'il a rencontré une bergère, naturellement, en patois, qu'il lui a fait des propositions en patois, et puis...
Ça arrange tout.
Qu'elle lui a dit qu'elle avait un berger, alors lui, il est reparti...
En patois. En patois. Et il est reparti en patois.
Exactement.
C'est simple.
Alors, après ces chansons, la comédie, parce que vous avez débuté très jeune comme acteur.
Oui, j'ai commencé très jeune.
À quel âge?
11 ans.
11 ans. Et vous avez tourné un film?
J'ai tourné un film, oui, avec le premier film de Marcel Carné où je chantais dans la rue.
Et qui s'intitulait?
Génie.
Génie.
Qu'est-ce que vous chantiez dans Génie?
Eh bien, je chantais une chanson de Jacques Prévert, dont les paroles véritables, le titre s'appelait Cozy Corner.
Vous vous rappelez un peu le départ de la chanson?
Le départ, c'est... Oh, vous qui connaissez l'Angleterre, avez-vous donc connu Cozy, Cozy, Cozy Corner, etc.
Et quelle joie avez-vous gardé de votre vie d'acteur enfant?
Ma joie, la joie que j'ai gardée, d'abord j'étais libre, j'allais plus à l'école.
Et puis vous aviez des camarades en tournant, des camarades de votre âge dans Les Disparus de Saint-Agile. Parce que c'est ça qui était merveilleux, il n'allait plus à l'école près des buts de Chaumont, mais il allait au cinéma dans Les Disparus de Saint-Agile, où on le mettait au collège.
Que sont devenus ces Disparus de Saint-Agile?
Jean-Claudio travaille beaucoup.
Il est en Suisse en ce moment.
Serge Grave, je crois, je suis sûr,
même
travaille à la télévision, exactement. Oui.
Serge Grave, venez un peu. Serge Grave, pilier de la télévision française.
Comment tu Marcel?
Serge Grave, à la télévision, se spécialise dans les émissions pour enfants, un petit peu.
Oui, oui. Continuellement.
Continuellement, donc vous n'avez pas changé de domaine.
C'est-à-dire si, je suis passé de l'autre côté de la caméra.
C'est ça. Tout. Mais enfin, de toute façon, toujours dans le domaine de l'enfance.
Toujours dans le domaine de l'enfance.
Mouloudji, quel était le souvenir que vous aviez gardé de Serge Grave, le plus marquant? Qu'est-ce qu'il faisait?
J'ai été épaté parce qu'il avait une chose que j'ai essayé de faire pendant des années, il imitait les voitures, les trompes de voitures.
Non, pas possible.
Il imitait les trompes de voitures.
Il ne fait jamais ça à la télévision.
Mais il ne nous fait jamais ça.
Ça doit être vieux, ça doit être sans famille, ça. C'est ce qui m'a fait faire le premier film, d'ailleurs. C'était uniquement un klaxon de vieille voiture. Vous savez, on tournait la manivelle. c'est tout.
C'est pas mal.
Et ça faisait envie à Marcel, ça?
Encore.
Encore un peu, voir s'il se fait. Essaye. Ça y est.
Moi, j'ai jamais pu, non.
Non, puis toi, tu chantes.
Mais j'ai essayé pendant des années, mais j'ai pas pu.
On a commencé dans la guerre des gosses, mon petit père.
Oui, dans la guerre des gosses.
Tonton Louloudin, d'ailleurs, ça me l'a rappelé.
Oui, c'est vrai.
Sur le tutu.
Oui, je chantais là.
Vous avez fait combien de films ensemble? Vous avez fait La guerre des gosses,
Les disparus.
Et l'enfer des anges.
Et l'enfer des anges.
Et l'enfer des anges, oui. Là, vous commenciez vraiment à prendre les pantalons longs, là, l'enfer des anges.
Moi j'étais vieux.
Disparu 19.
19 ont disparu de Saint-Agile. Eh bien, il paraissait pas 19 ans. Voilà ce qu'il faut savoir. Alors, dans La guerre des gosses, combien?
17.
Et vous en paraissiez combien?
Je sais pas, moi, c'est au public de le savoir.
Non, mais votre rôle, votre personnage.
13 ans.
Dans Les Disparus de Saint-Agile, vous aviez 19 ans et vous en paraissiez combien?
Je Je sais pas, 16 par là.
Oh, pas vrai. Vous étiez en sixième. Oui. Alors là, en sixième, vous auriez drôlement été en retard.
Ah oui.
Si seulement j'avais pu l'atteindre, cette sixième.
Vous aviez 12 ans. Et dans l'Enfer des Anges.
Ah bah, ça, l'Enfer des Anges, on l'avait tourné. Eh bien, écoutez, j'ai fini l'Enfer des Anges pour être mobilisé.
Bon, alors vous avez donc 20 ans et vous auriez dû avoir normalement dans le scénario quel âge ?
Oh, bah, il faisait déjà bien 18 ans, le gars. Hein,
ah
là,
oui.
Mon petit ondu, là.
Oui. Oui. Il y en avait un dans La Guerre des Gosses, il avait 32 ans, je crois, il faisait un gosse de 11 ans.
Oui, mais lui n'était pas normal.
Mais il a eu beaucoup d'ennuis parce qu'il se conduisait comme un homme de 32 ans. Oui. Les dames croyaient qu'il avait 11 ans.
C'était affreux. Bon, bah, écoutez, Serge Grave, je pense que, alors maintenant, quand vous employez. Un petit secret.
Ah, bon
quand oui. vous employez, aussi, donc, maintenant que vous faites tourner des jeunes acteurs,
oui.
Par exemple, ceux qu'on voit dans Les Aventures de Jackie ou maintenant oui. dans les nouveaux films que vous faites avec Bluval.
Oui.
Quel âge ont-ils vraiment ?
Ah, sont des petits.
Ah, sont vraiment, ils ont vraiment leur âge.
Ah, oui,
autrement
oui,
dit, contrairement au cinéma, la télévision ne triche pas, ce que je voulais démontrer.
Là. Nous sommes jeunes.
On peut se couper là-dessus.
Oui.
Au revoir, Jacqueline.
Au revoir, Serge.
Au revoir, Serge.
Non, alors, parlons oui. toujours du cinéma.
Ah oui, l'Opéra de Katsu.
Oui, moi, ça, c'est les souvenirs, alors, de que vous avez gardés sans avoir tourné.
Oui, je trouve que c'est un des plus beaux films que j'ai vus. Je l'ai vu gosse, et puis après, je l'ai vu plus gosse, et puis après, je l'ai vu vieux. Ben, je ne sais pas, ce qui m'a frappé d'abord, c'est le film, et puis les interprètes.
L'ambiance.
L'ambiance, et puis les chansons, et puis enfin, je sais pas, tout ce mélange. Ce film était un grand film, quoi, d'abord.
Et il y avait un grand acteur qui jouait Maki, et ce grand acteur, c'est Albert Préjean.
Albert Préjean.
Avant de demander à Albert Préjean de nous chanter une chanson de ce temps-là, Albert, quand vous avez tourné l'Opéra de Katsu, voyez-vous, le petit garçon qui était Mouloudji à l'époque a été très très impressionné par l'ambiance.
Ah oui, je comprends
Mais
ça.
Mais est-ce que pour vous, acteur qui avait tourné ce film et l'ambiance de l'Opéra de Katsu apportait quelque chose vraiment de neuf à l'époque?
Ah, complètement. Alors,
est-ce que vous-même avez eu le sentiment, vous et les interprètes et vos camarades, avez-vous eu le sentiment vraiment de cette chose étrange que l'Opéra de Katsu apportait?
Non, pas la première fois, il faut être très franc. La première fois, je tournais à Berlin et Pape s'était arrivé en me disant « Mon cher Préjean, j'ai eu un canon pour vous formidable, c'est l'Opéra de Katsu ». Alors, je ne savais pas, ça s'appelait Drei Groschen Oper. Je ne savais pas ce que ça voulait dire exactement. Et il m'a dit, venez voir ça au théâtre, c'est formidable. Et je suis arrivé au théâtre le soir, et c'était justement Rudolf Forster, le type qui faisait la version allemande, qui jouait dans la pièce. Et alors, j'ai vu le début de la pièce avec des personnages extraordinaires qui jouaient comme ça, comme des automates, vous savez. Je me suis dit, c'est tout de même curieux, cette histoire-là. Puis là, j'ai entendu la musique. Alors ça, la musique m'avait beaucoup frappé. Mais alors, je n'avais strictement rien à la fin du premier acte, compris un seul mot. Il faut dire que je ne parlais pas allemand, si. Alors en sortant, Pabst me dit, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je lui dis, mon cher, je vais être franc avec vous, je n'y comprends strictement rien. Alors il me dit, mais pourquoi les acteurs jouent comme ça, ce genre de saccadé? Il me dit, mais mon cher, ce sont les marionnettes de la vie. Oh, ben, j'ai tout compris, c'est fini. Allez, je tourne l'Opéra de Katsu, c'est fini. Alors Kurt Weill m'a fait écouter les musiques, j'ai écouté ça, j'ai trouvé ça formidable. Et après, nous avons eu vraiment l'impression de faire une grande chose. On ne se sommes pas trompés, tu vois. C'est fantastique parce que ça a fait un saut, vous rendez compte, ça. La première musique de l'Opéra de Katsu a tellement été une nouveauté, une révolution, que même moi, quand j'ai entendu les airs, c'était les premières dissonances que l'on entendait. Je ne comprenais pas si vraiment c'était vraiment tellement musical.
Et moi, je trouve que maintenant, enfin, une grande partie de ce qu'on appelle de la chanson littéraire actuelle.
Oui.
Certainement.
Les enfants de l'Opéra de Katsu. Tu n'as qu'à apprendre, du reste, la plupart de beaucoup de musique. J'entends des fois, de temps en temps, une musique, je dis tiens. L'Opéra de Katsu.
La monnaie de l'Opéra de Katsu.
Exactement.
Exactement.
Enfin, mon cher Mouloudji, je l'ai connu vraiment tout petit et j'ai surtout une très grosse admiration pour lui parce que on peut dire que c'est un gosse qui s'est fait vraiment tout seul. Il est doué, c'est une affaire entendue. Il fait du cinéma, de la musique, de la peinture, de la littérature. Je ne sais pas ce qu'il va faire après pourvu qu'il ne fasse pas de boxe maintenant. C'est tout ce que je lui demande.
En tout cas, je pense que Mouloudji serait alors très très content, Albert, d'entendre une de vos chansons.
Je vais vous chanter là, aux quatre coins de Paris. Statue qui vous salue, l'accordéon qui joue au coin de la rue, du populo, des tas de ballots et des camelots rigolos. Pour voir tout cela, c'est facile comme bonjour, il suffit de faire un petit tour. aux quatre coins de Paris. Dès le matin, tout fleurit. Chaque rue, chaque trottoir vous rappelle une belle histoire. On dit bonjour en passant aux midinettes, aux agents, car tout le monde est un peu votre ami aux quatre coins de Paris. Mais tout à coup passe devant vous une belle fille, une merveille, un bijou. Vous l'accostez, vous plaisantez, vous faites semblant de l'épater. Elle vous dit alors, mais où donc allons-nous? Vous répondez n'importe où, aux quatre coins de Paris. Vous verrez comme c'est joli, il suffit d'ouvrir les yeux et tout paraît merveilleux. On s'embrasse gentiment dans chaque arrondissement, car tout partout il y a de l'amour qui fleurit aux quatre coins de Paris. Elle m'a plu de plus en plus, et puis voilà, tout à coup il a plu. Pour s'abriter, elle est montée chez moi, puis elle y est restée. Notre voyage de noces fut vraiment merveilleux. On est partis tous les deux aux quatre coins de Paris. Oh, quel voyage, mes amis! Des grands boulevards aux petites rues, c'est bien simple, on a tout vu. Et devant chaque monument, on s'en est fait des serments. On l'a juré de s'aimer toute la vie aux quatre coins de Paris.
Mouloudji chanteur.
Oui.
Comment avez-vous eu envie de chanter, Mouloudji?
Ah ben, turlututu à l'école, il vous l'a dit.
Non, mais plus tard, plus sérieusement.
Eh bien, à dire la vérité, je n'avais pas du tout de travail il y a 3 ans. Vraiment, absolument pas. Et je ne voulais pas du tout chanter. C'est un métier qui me faisait très peur et qui me fait encore très peur. Et c'est arrivé tout à fait par hasard. Je faisais une mise en scène dans un cabaret. La directrice m'a demandé de chanter 2 chansons pour boucher un trou entre 2 sketchs. J'ai chanté ces 2 chansons et ça a bien marché. Puis je ne sais pas, ça m'a bien plu parce que j'ai trouvé que si on chantait correctement, on vous applaudissait et que, mon Dieu, c'était plus facile que le cinéma où tout ça est un espèce de trucage, où il faut avoir de l'argent pour faire de la publicité, où enfin, mon Dieu, il y a une chose qu'à la base, il est très difficile d'arriver. Enfin... Alors, je me suis dit, je vais continuer à faire du tour de chant. Voilà comment ça a commencé, tout bêtement.
Et quelle chanson vous allez chanter aujourd'hui?
Eh bien, je vais chanter une chanson de Robert Lamoureux qui s'appelle « Mais qu'est-ce que tu crois ?»
Voilà, alors ça, c'est très amusant parce que Robert, cette chanson-là, Robert l'a créée dans l'émission il y a très peu de temps.
Oui.
Et nous allons voir justement ce qu'elle est devenue de l'auteur à l'interprète.
Vous allez voir ça.
La câble.
Il y a des gens qui se battent pour se faire un jour un grand nom. Et qui se battent et puis qui combattent et puis qui se débattent, sacré nom de nom. On devrait dire à ces gens-là, mon pauvre vieux, qu'est-ce que tu crois? Tu n'es qu'un maillon de la chaîne, tu n'es qu'un moment de la vie. Un moment de joie, de misère, et puis on t'enterre et puis c'est fini. Un moment de joie, de misère, et puis on t'enterre et puis c'est fini. Il y a des gens qui luttent pour devenir de gros potentats. Et qui luttent et puis qui se disputent et puis qui culbutent, sacré nom de tas. On devrait dire à ces gens-là, mon pauvre vieux, qu'est-ce que tu crois? Tu n'es qu'un maillon de la chaîne, tu n'es qu'un membre de la vie. Un moment de joie, de misère, et puis on t'enterre et puis c'est fini. Un moment de joie, de misère, et puis on t'enterre et puis c'est fini. Y a des gens qui peinent pour gagner beaucoup de gros sous. Et qui peinent et puis qui se démènent et puis qu'on amène un soir dans un trou. On devrait dire à ces gens-là, non, non, mon pauvre vieux, mais qu'est-ce que tu crois? Tu n'es qu'un maillon de la chaîne, tu n'es qu'un maillon de la vie. Un moment de joie, de misère et puis on t'enterre et puis c'est fini. Un moment de joie, de misère et puis on t'enterre et puis c'est fini.
Je suis sûr que l'amoureux sera content d'avoir un pareil interprète.
Ah, moi aussi. Ouais. Et jusqu'où la chanson vous a-t-elle conduit?
Ouais,
ben jusque-là.
Ouais, ça, c'est tout, Mouloudji.
Jusqu'à l'Alhambra, bien entendu.
Bah, oui, passant par où?
Bah, oui, mais enfin, vous avez fait des petits voyages à cause de la chanson,
ah,
non?
Oui, je suis allé d'abord, j'allais dire l'autre jour, parce qu'à cause des avions, c'est plus... Amérique.
Oh, mais ça, c'est...
J'étais en Amérique.
Et avant?
Avant, j'ai été aussi en Italie.
Ah,
oui, en Italie. Le pays de la canto, on dit en italien.
Le pays de quoi?
De la chanson, canto en italien.
Canto en italien?
Oui.
Bon, moi, je veux bien.
Bel canto,
c'est comme
oui,
ça.
C'est
bel
ça.
Comme
canto.
Ça,
la canzonetta. La canzonetta.
Oui, canzonetta.
Comme on dit belle avec, il n'avait pas compris.
Bella canzonetta.
Oui. Bella canzonetta.
Bella canzonetta.
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 Oh, c'est trop difficile.
Bon. Alors écoutez, par contraste, Mouloudji,
oui,
puisque vous voulez de la bella canzonette,
bella canzonette.
Hein, par contraste avec la cave de Saint-Germain-des-Prés et puis la chanson un petit peu réaliste de Paris, eh bien nous allons entendre une grande vedette de la chanson italienne, c'est Lia Arrigoni, la chanson napolitaine.
Une certaine attirance pour les chansons tristes.
Oui, c'est dans votre caractère, ça?
Moi, les chansons tristes, ben non, moi j'aime beaucoup, pas du tout. Par exemple, j'allais toujours voir Georgius parce que je trouvais que c'était pas triste du tout.
Ah non, ça c'est pas triste du tout.
Mais dans les jeunes compositeurs que vous interprétez, en général, que des gens tristes,
oui,
enfin. Voilà. Même la chanson de Robert que vous avez choisie, c'est pas la plus gaie, faut bien dire.
Non.
Mais enfin, tenez, si l'autre jour, j'ai entendu un monsieur qui est venu me voir et qui m'a chanté une chanson que je trouve pas triste.
Ah, comment il s'appelle, ce monsieur-là?
Il s'appelle Monsieur Brafford.
Et sa chanson?
Et c'est une chanson très... C'est bizarre, c'est une chanson qui s'appelle La Polka des Tortues.
Bon, alors, c'est loufoque, ça.
Monsieur Brafford, où est-ce qu'il est, Monsieur Paul Brafford?
Le voici.
Venez voir. Alors, je suis très content de présenter, non pas à Mouloudji parce qu'ils se connaissent, mais de présenter à Jacqueline Joubert et de présenter au public M. Paul Brafford, qui est auteur de chansons, paroles et musique.
Oui, c'est ça.
Mais ce qui est son activité agréable. Mais j'aimerais vous demander, cher monsieur, ce... Oui, asseyez-vous. J'aimerais vous demander ce que vous faites aussi dans la vie d'autres.
Je dois avouer que je fais de la physique.
Oui, mais où?
Au commissariat à l'énergie atomique.
Voilà. Faites-nous donc danser la polka des tortues.
Entendu?
Voyez, mesdames, voyez, messieurs, cette chose vraiment curieuse. Voyez cette danse merveilleuse. Voyez ces petits animaux dont les pattes remuent. C'est la polka des tortues, la polka des tortues, la polka des tortues. Un étudiant désargenté qui voulait faire son droit au jardin des plantes s'engagea. Le jour il brossait les éléphants et la nuit venue il faisait polquer les tortues, faisait polquer les tortues, faisait polquer les tortues. Du monde entier, savants, généraux et autres azous se précipitaient tous au zoo pour voir ce spectacle qu'aucun d'eux n'avait jamais vu. La belle polka des tortues, la polka des tortues, la polka des tortues. Le pauvre jeune homme aimait la caissière du jardin des plantes. Mais cette caissière était l'amante du gardien-chef grand moustachu, jaloux et rancunier. Que les tortues torturaient, que les tortues torturaient, que les tortues torturaient. Par ses propos, il fit si bien que la caissière fatale dit les tortues, mais c'est banal. Et c'est pourquoi le pauvre jeune homme, qui était un peu loufoque, se fit bouffer par un phoque, s'y bouffer par un phoque, s'y bouffer par un phoque. Mesdames, messieurs, si cette chanson ressemble un peu à Ruy Blas, ce n'est pas par hasard, hélas, car on ne trouve pas tous les jours un type comme Victor Hugo. Qu'a une tortue dans le cerveau, une tortue dans le cerveau, une tortue dans le cerveau.
Représentant d'un genre de chanson dite intellectuelle.
Tiens, tiens.
Oui, oui, ouais, tiens, ouais. Tiens, c'est comme ça. Et l'on suppose que ces chansons dites intellectuelles font partie de votre joie de vivre.
Ah oui, eh ben, c'est bien possible. Pourquoi pas. Vous savez, je ne suis pas du tout contrariant. Alors, mais en tout cas, je crois que, à propos de chansons intellectuelles, quand même, il y a une chose que je ne comprends pas. On dit toujours, en ce moment, je lis partout, les chansons littéraires, la nouvelle génération qui veut renouveler la chanson française et qui chante des chansons à base de poèmes ou n'importe quoi. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a eu... Enfin, il y a des... Par exemple, Damia. Oui. Croyez-vous qu'elle ait attendu cette génération...
Ah non,
là,
absolument pas.
Pour chanter de bonnes chansons.
Elle avait d'excellentes chansons.
Oui,
elle a d'excellentes chansons.
Mais il y a des tas de gens qui, il y a 20 ans, ou 30 ans, ou 10 ans, ou 5 ans, ont chanté de très belles chansons.
Ils n'ont pas attendu les poètes ésotériques de 1953.
Absolument pas.
Ah oui, mais Damia, que symbolise le goéland, s'est laissé prendre au charme des nouvelles chansons. Ah. Attention,
oui,
n'est-ce pas,
oui,
Henri,
ça, c'est un événement, ça.
Un succès considérable, et elle chante la chanson de Louis Amade et Gilbert Bécaud, Les Croix,
par exemple. N'est-ce
ça,
pas?
C'est une nouvelle chanson.
Et justement, je dois dire que pour nous qui n'avons jamais cessé de considérer Damia comme une souveraine de la chanson française, cette nouvelle de son triomphe au Japon fut vraiment une très, très, très bonne nouvelle. Et je suis très heureux que pour la joie de vivre de Mouloudji, chante aujourd'hui la grande et la bouleversante Damia.
Des croix sur cette terre, croix de fer, croix de bois, humble croix familière, petite croix d'argent pendue sur les poitrines, vieille croix des couvents, perdue parmi les ruines. Et moi, pauvre de moi, j'ai ma croix dans la tête, l'immense croix de plomb, vaste comme l'amour. J'y accroche le vent, j'y retiens la tempête, j'y prolonge le soir et j'y cache le jour. Et moi, pauvre pauvre de moi, j'ai ma croix dans la tête, un mot y est gravé qui ressemble à souffrir, et ce mot familier que mes lèvres répètent est si lourd à porter que j'en pense mourir. Mon Dieu, qu'il y en a sur les routes profondes de silencieuses croix qui veillent sur le monde. Haute croix du pardon, tendue vers les potences, croix de la déraison ou de la délivrance. Mais moi, pauvre de moi, j'ai ma croix dans la tête, l'immense croix de plomb, vaste comme l'amour. J'y accroche le vent, j'y retiens la tempête, j'y prolonge le soir et j'y cache le jour. Mais moi, pauvre de moi, j'ai ma croix dans la tête, un mot y est gravé qui ressemble à souffrir, et ce mot familier que mes lèvres répètent est si lourd à porter que j'en pense mourir.
Il y a tant d'amour. Pas se moquer de ces rengaines et qui par les ruses et les faubourgs s'en vont bercer les cœurs en peine et consoler du mal d'amour. Elles se racontent mieux qu'un poème, plus doucement et sans façon. Rappelle-toi pour dire je t'aime, tu m'avais fait une chanson. Il y a tant d'amour sur toute la terre, donne-moi ta main. Le temps d'aimer ne dure guère, pourquoi demain? Dans leur chambrette, pierre ou pierrette, perdent la tête et sont heureux. Il y a tant d'amour sur toute la terre, faisons comme eux. Faut pas se moquer de ces chansonnettes où le soleil et les lilas ont rendez-vous dans une guinguette. On peut danser sur ces airs-là. Viens donc valser l'un contre l'autre, tout doucement là dans mon cou. Cette chanson qui est la nôtre, tu la diras rien que pour nous. Il y a tant d'amour sur toute la terre pour qui en veut. Le temps d'aimer ne dure guère, soyons heureux dans leur chambre. De la tête, faisons comme eux. Il y a tant d'amour sur toute la terre et dans tes yeux. Faut pas se moquer de ces rengaines qui durent plus que les amours. Ah, que mon cœur a de la peine. Adieu musique, adieu beau jour. tour. Adieu caresse, adieu guinguette. Mais les amants qui nous suivront sur la chanson que tu m'as faite iront au bal et s'aimeront. Il y a tant d'amour sur toute la terre. Donne-moi ta main. Le temps d'aimer ne dure guère. Pourquoi demain? Mon Dieu, que c'est belle. Je perds la tête. La chansonnette, je ne la sais plus. Il y a tant d'amour sur toute la terre. Le temps d'aimer ne dure guère. Non, je ne sais plus. Le temps d'aimer ne dure guère.
Des copains maintenant.
Ouais, ça va?
Oui, oh, ça va, moi je.
T'es ému?
Ah oui.
Il n'y a pas que vous, allons.
Non, non, on est tous émus.
Fait plaisir, hein, d'entendre une chanson bien chantée. Ça D'accord. va? On enchaîne? Allez.
Ça va.
Ça va.
Il est ému, lui aussi.
Oui, oui, tout le monde, oui. Alors, les copains, disait Jacqueline.
Les copains, disait Jacqueline.
Oui. Hein?
Les copains, disais-je.
Oui.
Vous avez dit les copains.
Oui, elle a dit les copains.
Il me semble que j'ai dit les copains.
Mais je sais. Bon, eh bien, je vais vous dire, pour les copains, moi, j'ai un grand copain. Et il s'appelle Crolla.
Il joue de la guitare, Crolla.
Il joue de la guitare. Je connaissais quand j'étais petit, puis je l'ai connu quand j'étais plus grand.
Oui.
Et puis, quand j'étais très grand. Après,
voilà, il a toujours été là, Crolla.
Jusqu'à ma...
C'est un copain d'enfance.
Maintenant, vous êtes un vieillard, vous le connaissez toujours.
Alors, voici donc le copain d'enfance de Mouloudji, vieillard à la barbe chenue, Crolla. Voilà. Maintenant abandonner la joie de vivre en famille, mais nous avons, pour parler de la joie de vivre en famille, un spécialiste en la personne de...
Le d'abord... Avant de commencer,
j'ai reçu pour une fois pas mal de courriers. Vous avez jamais ri, non? Ah, il y a des jours, on se sent nerveux. J'ai reçu pas mal de courriers de gens qui m'ont écrit à la suite d'un petit poème que j'avais écrit moi-même dans le temps et que j'avais intitulé « L'éloge de la fatigue ». Alors, pour faire plaisir à tous ces gens qui ont eu la gentillesse de me le redemander, je vais donc vous dire le poème « L'éloge de la fatigue ». Éloge of the fatigue. Vous me dites, monsieur, que j'ai mauvaise mine, qu'avec cette vie que je mène, je me ruine, que l'on ne gagne rien à trop se prodiguer. Vous me dites enfin que je suis fatigué. Oui, je suis fatigué, monsieur, et je m'en flatte. J'ai tout de fatigué, le cœur, la voix, la rate. Je m'endors épuisé, je me réveille là, mais grâce à Dieu, monsieur, je ne m'en soucie pas. Et quand je m'en soucie, je me ridiculise. La fatigue, souvent, n'est qu'une vantardise. On n'est jamais aussi fatigué qu'on le croit. Et quand cela serait, n'en a-t-on pas le droit ? Je ne vous parle pas des sombres lassitudes qu'on a lorsque le corps harassé d'habitude n'a plus pour se mouvoir que de pâles raisons. Lorsqu'on a fait de soi son unique horizon, lorsqu'on n'a rien à perdre, à vaincre ou à défendre. Cette fatigue-là est mauvaise à entendre. Elle fait le front lourd, l'œil morne et le dos rond et vous donne l'aspect d'un vivant moribond. Mais se sentir plié sous le poids formidable des vies dont un beau jour on s'est fait responsable, savoir qu'on a des joies ou des pleurs dans ses mains, savoir qu'on est l'outil, qu'on est le lendemain, savoir qu'on est le chef, savoir qu'on est la source, aider une existence à continuer sa course, et pour cela se battre à s'en user le cœur, cette fatigue-là, monsieur, c'est du bonheur. Et sûr qu'à chaque pas, à chaque assaut qu'on livre, on va aider un être à vivre ou à survivre, et sûr qu'on est le port et la route et le guet, où prendrait-on le droit d'être trop fatigué ? Ceux qui font de leur vie une belle aventure marquent chaque victoire en creux sur leur figure. Et quand le malheur vient y mettre un creux de plus parmi tant d'autres creux, ils passent inaperçus. La fatigue, monsieur, c'est un prix toujours juste. C'est le prix d'une journée d'efforts et de lutte. C'est le prix d'un labour, d'un mur ou d'un exploit. Non pas le prix qu'on paie, mais celui qu'on reçoit. C'est le prix d'un travail, d'une journée remplie et c'est la preuve enfin qu'on vit avec la vie. Quand je rentre chez moi et que ma maison dort, j'écoute mes sommeils et là je me sens fort. Je me sens tout gonflé de mon humble souffrance et ma fatigue alors, c'est une récompense. Et vous me conseillez d'aller me reposer. Mais si j'acceptais là ce que vous proposez, si je m'abandonnais à votre douce intrigue, mais je mourrais, monsieur, tristement, de fatigue.
Si j'ai bien compris, mon cher Mouloudji, vous aimez, vous, nous avons vu tout à l'heure votre camarade Paul Brafort, nous venons de voir Crolla. Crolla, lui, est un monsieur arrivé, maintenant confortable, il fait des musiques, il est connu, Brafort le sera, et je sais que vous aimez, par conséquent, les gens qui démarrent dans la vie. Eh bien, c'est un peu une joie de vivre que nous partageons, parce que nous aussi, nous aimons toujours voir des gens qui démarrent et qui font quelque chose de très bien et qui ont plein de promesses devant eux. Et il se trouve que nous allons célébrer cette joie de vivre que vous avez des gens qui démarrent en accueillant ici deux garçons, car la radiodiffusion française a organisé récemment un concours de présentateurs et d'animateurs d'émissions publiques de variété.
Très bien.
Et je suis très content et très heureux d'accueillir ici les deux garçons qui sont les lauréats de ce concours. Il y en a un troisième, mais il habite Lille, il n'a pas pu venir. Et les deux garçons qui sont les lauréats de ce concours de présentateurs de variété, c'est Francis Valbray et Jean Peignet. Alors, ça, c'est Francis.
Je suis pas tout seul, non, c'est Jean Peignet.
C'est Jean Peignet. Alors, je veux dire quelque chose à Jean Peignet d'abord.
D'accord.
Voilà, d'abord, permettez. On vous présente, vous présentera après. Jean Peignet, il se trouve, Mouloudji, que lorsque nous avons fait une émission qui s'appelait 789, il y avait dedans un concours de volubilité qui s'appelait le Radio Record. C'est lui qui l'avait gagné à l'époque.
On pouvait plus l'arrêter.
On pouvait plus l'arrêter. Là, comme maintenant.
Je me souviens que c'était une de mes joies de vivre, d'ailleurs.
Voilà.
Ça, je
peux vous le dire. Ah, bah attendez,
vous êtes. Il
prépare l'avenir, hein. Prépare l'avenir, ça va. Attendez, attendez. Alors maintenant, présentez, mon ami. Voilà.
Eh bien, n'ayez pas peur, je ne serai pas tout seul en scène. D'abord, j'aurais beaucoup trop peur. Et j'ai amené avec moi celui qui a été premier à ce concours. C'est Francis Valbray, que voici.
Mon cher concurrent, je vais commencer par vous donner la main et par vous dire bonjour, parce que, mon Dieu, quoi qu'on soit tous les deux lauréats de ce concours, on ne s'est jamais tant vu qu'aujourd'hui.
C'est exact.
Je vous avoue que ce jour-là, j'avais un trac, mais alors un trac fou, je ne vous ai pas remarqué dans les couloirs de la radio. Je n'étais pas le seul. Mais vous m'avez certainement remarqué, vous avez remarqué un garçon, les yeux hagards, l'air fébrile, avec un verre d'eau dans la main. Parce que le trac a deux effets sur moi. Il me dessèche la gorge, il me donne envie de... Si. Alors j'avais trouvé un verre d'eau dans un couloir, je buvais une gorgée, j'allais au bout du couloir. Une gorgée, le bout du couloir, une gorgée, ça pourrait faire une samba, on appellerait ça la samba. samba du Verdeau. Mais enfin, soyons sérieux. Vous allez nous dire, vous, maintenant, ce que vous avez fait, vous qui êtes arrivé second à ce concours, ce que vous avez fait ou ce que vous auriez voulu faire.
Eh bien, à ce concours, d'abord, j'avais pas le baptême du feu, puisque Henri Spade vous l'a dit, j'étais déjà passé il y a 3 ans dans 7-8-9. Moi, je voulais faire quelques petites imitations.
Alors, vous allez nous les faire, hein?
Eh bien, si vous voulez, je vais essayer. Enfin, je vais vous les faire rapidement. Je vais vous imiter, si vous voulez bien, Jean-Richard. Jean-Richard, quand il raconte, il arrive, vous savez, il vous dit « Pour faire de la confiture d'un géranium, vous prenez un géranium bien frais, vous les mettez à macérer 24 heures, et puis vous les hachez. Menu. Et puis, il y a une autre imitation que je voulais faire, mais alors là, c'est gênant parce que c'est un très grand bonhomme, au propre et au figuré, et c'est un peu une joie de vivre nationale, puisque c'est Robert Lamoureux. Si, Robert Lamoureux, je le verrais très bien dans la joie de vivre, très bien, vous savez. On l'annoncerait, on dirait on a une joie de vivre en famille, on dirait pas son nom, puis alors l'orchestre jouerait ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da, c'est une idée à étudier ça. Et alors, Robert Lamoureux, j'ai essayé de vous l'imiter en deux mots, c'est pas facile parce qu'il passe lui aussi. Et en particulier lorsqu'il vous parle de sa voiture, vous savez. Il dit, mousse de bagnole, les marchés, comme ça. Mais alors, comme ça, hein. Ça, nous, on filait, tout ça, à la campagne, on prenait les raccourcis. Ça, à un endroit, on venait de faire le seigle, le blé, on l'avait fait l'année d'avant. On rentre dans la luzerne. Plus de grand-mère. 76 ans dans la luzerne. Nous, on était embêtés, tout ça. Papa, il dit, les gens, ils vont jaser. Oh, et puis, elle avait les casse-croûtes, alors vous parlez. On la cherche partout, pas de grand-mère, rien. Va chez le paysan, on dit on a perdu grand-mère, le gars dit condoléances, on dit mais non, dans la luzerne, tout ça. Le gars dit, écoutez, j'ai une grand-mère à la maison, je m'en sers pas, si vous la voulez, on vous la donne. Papa, elle dit non, c'est la l'autre qu'on veut, on l'a élevée, tout ça, puis elle tricote. Alors on est rentré, le gars dit, je passe l'air dans 8 jours, si je trouve quelque chose, vous fais signe. Alors après avoir fait ce que je n'ai pas fait, donc à cette finale, je vais demander à Francis Valbray de nous dire ce que lui a fait.
Merci, vous êtes gentil tout là. Alors, il a dit ce qu'il n'avait pas fait. Moi, en deux mots, je vais vous dire ce que j'ai fait. J'ai fait des choses pas comme tout le monde. Je me suis dit, il y a un chanteur et un chanteur, tout le monde va les faire chanter. Moi, j'ai appelé mon émission Le quart d'heure imprévu. J'ai fait tricoter la chanteuse, marcher le chanteur sur les mains. Enfin, j'ai fait des tas de choses. Et j'ai aussi montré mes jambes. C'est pour ça, je crois, que j'ai été reçu premier. Si. Il y a une dame à la sortie qui m'a dit, monsieur, vous avez un gentil talent et des jambes ravissantes. Là, remarquez, elle exagérait beaucoup.
Ça aurait dû être télévisé.
Ouais. Non, je vais quand même vous raconter pourquoi et comment j'ai montré mes jambes. Quand la chanteuse est partie, j'ai dit au public qui était composé de directeurs des chaînes de la radio, qui était un public un peu blasé et pas tellement facile à dérider. J'ai dit, la chanteuse est gentille, elle est charmante. Elle est jolie, vous êtes un peu moins charmant, un peu moins gentil. Et pourquoi? Je le devine en ce qui concerne les messieurs tout au moins, parce que si vous n'aviez pas le plaisir de m'avoir devant vous, vous auriez le plaisir bien plus grand encore d'avoir une speakerine de music hall. Savez-vous, messieurs, ce que c'est qu'une speakerine de music hall? Je dis une parce qu'elles sont toutes pareilles, modèle standard. Vous savez, à la BC, à Bobino, ça a la petite fossette, l'œil dans le coin de l'orbite, un petit sourire intelligent, ça donne à peu près ceci. Puis alors, ça a des jambes adorables, des jambes merveilleuses. Je vais vous montrer un peu ce que ça peut donner, n'est-ce pas? Alors, j'ai fait ça. Ils étaient complètement stupéfaits. J'ai dit, les jambes, elles ne les cachent pas par un pantalon ni par une veste. Non, elles les montrent. Et alors, ah, si Werther avait connu ça, un véritable clair de lune. Je ne sais pas si c'est très télévisuel. Tourner, ça ne fait rien. Et alors, au-dessus de leurs jambes adorables, elles ont une petite jupette, pas une jupe, une petite jupette qui arrive juste sur le... au radet. Enfin, pas plus bas, vous me comprenez. Remarquez, elles la relèvent tout le temps. On est feintés, ils ont une culotte. Mais enfin, ça ne fait rien. Et alors, elles ont un esprit adorable pour vous annoncer la moindre chose. Par exemple, elles vous auraient dit en ce moment, si je vous ai plu, quel bonheur, car je l'ai fait, et de tout cœur. Eh bien, moi qui suis un monsieur sérieux, je ne ferai pas ça du tout. Je vous dirai, je vous remercie. Merci de nous avoir écoutés, Jean Peigné et moi-même. Bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles,
et bonsoir, messieurs. Bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles. Mon petit Mouloudji, puisque nous en sommes aux espoirs, la ronde de l'espoir.
Nous ne vivrons jamais assez longtemps pour aimer toutes les filles du monde, et vivrons-nous jamais assez longtemps pour connaître la paix du monde. Mais il y aura toujours le soleil pour tous les gars et toutes les filles. Mais il y aura toujours le soleil et chaque soir les lumières de la vie. Nous confierons nos rêves aux enfants des chemins pour que nos nuits s'achèvent en joyeux lendemain. Pour qu'il y ait toujours des aveux et des sourires aux yeux des amoureux. Flocons légers des froides nuits d'hiver qui tombaient sur nos paysages. Flocons légers des neiges de l'hiver caressaient nos jeunes visages. Mais il y aura toujours le soleil dans les bosquets et les charmilles. Mais il y aura toujours le soleil qui séchera les yeux des pauvres filles. Le tourbillon joyeux des folles boucles blondes feront de nos cheveux la chaîne de la ronde. Pour qu'à jamais dans chaque maison la joie fleurisse en bouquet de chansons.
Une autre tout à l'heure, rassurez-vous. Ah, ah ben voyons, mais on distille le plaisir.
C'est bien meilleur.
Voilà. Il y a une pièce liée à votre joie de vivre, Mouloudji, une pièce de théâtre.
Ah, ben oui, 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 mais puis parce que quand j'ai, en 1937, j'étais... je parle comme si j'ai... En 1937...
C'est un vieillard, tout le monde le sait.
Des romances en 1900, je...
Oui, oui, oui.
Alors, en 1937, j'étais à l'école de M. Dulin, et j'avais commencé en 1937, par là. Et je devais apprendre une scène, et j'avais appris poêle de carottes. Et...
On va vous aménager une petite surprise là-dessus.
Bon, oui, vous savez, notre première joie de vivre a été la joie de vivre de Mme Berthe Beuvy. Elle était notre première invitée et notre marraine, en somme. Et c'est elle qui a toujours joué poêle de carottes à la Comédie française.
Oui. Aujourd'hui, et pour la première fois dans les annales du théâtre, c'est un garçon qui joue poêle de carotte, c'est Jean-Paul Roussillon. Et Mme Berthe Beuvy, elle, maintenant, joue Mme Lepic. Il se trouve donc qu'il y a entre La Joie de Vivre et Jean-Paul Roussillon un grand point commun, c'est que nous nous trouvons avoir, les uns et lui, la même marraine, c'est-à-dire Mme Berthe Beuvy. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes très heureux d'accueillir non seulement Jean-Paul Roussillon poêle de carotte, mais notre marraine, Mme Berthe Beuvy, en Mme Lepic, et Mme André de Chauvron en Annette.
Mme Lepic cache son jeu, elle le cache bien.
Pauvre petit monsieur.
Ah, une dernière recommandation, Annette. N'oubliez pas la tombée de la nuit.
Vous avez plutôt l'air gentil.
Ah, vous trouvez?
Oui.
Pareil qu'il faut pas s'y fier.
Oh, vous avez des petits défauts.
Des petits et des gros, je les ai tous. Je suis menteur, hypocrite, malpropre, ce qui m'empêche pas d'être paresseux et têtu.
Tout ça à la fois?
Mais c'est pas tout. J'ai le cœur sec et je ronfle.
Oh.
Il y a autre chose. Ah, je boude. Et c'est même là peut-être le principal de mes défauts. On affirme que malgré les coups, je m'en corrigerai jamais.
Et vous bat?
Bon, quelques gifles.
Elle a la main à l'aise?
Une raquette.
Elle vous donne de vrais gifles?
Ça fait pas mal, j'ai la peau dure. C'est plutôt le procédé qui m'humilie. Parce que je commence à être un grand garçon.
Je vais avoir 16 ans.
Oh, je peux pas me figurer que vous êtes un mauvais sujet.
Patience, vous y viendrez.
Je crois pas.
Même le pic vous y amènera.
Si je veux.
De gré ou de force, Annette, elle vous retournera comme une peau de lièvre. Je vous conseille pas d'y résister.
Elle mangerait.
Elle gênerait.
Bigre.
Enfin, je veux dire, elle vous flanquera la peau.
Oui, bah si je m'en allais tout de suite.
Attendez quelques jours. Même le pic fera bon accueil à votre nouveau visage. Comptez sur un mois d'agrément avec elle et jusqu'à ce qu'elle vous prenne en grippe. Demeurez ici, Annette. Vous ne serez pas plus mal qu'ailleurs. Et je vous aime autant qu'une autre.
Je vous conviens.
Vous ne me déplaisez pas. Je suis persuadé que si chacun de nous y met du sien, ça ira tout seul.
Ah, moi, je le souhaite.
Mais dites toujours comme Mme le pic. Soyez toujours avec elle contre moi.
Oh, ce serait joli.
Mais faites semblant, au moins, dans notre intérêt. Rien ne nous empêchera, quand nous serons seuls, de redevenir canards.
Ah, ça, je vous le promets.
Voyez comme j'ai le cœur sec, Annette. Je me confie à la première venue.
Le fait est que vous n'êtes pas fière.
Ah, je vous prie seulement de ne jamais me tutoyer. Oh. Votre servante me tutoyait sous prétexte qu'elle était vieille et elle me vexait. Appelez-moi Paul de Carreau.
Non, non.
Ne me tutoyez pas.
Oh, bah, je suis pas une effrontée, je vous jure bien.
C'est bon, Annette. Ah, je vous disais que j'avais une dernière recommandation à vous faire. Monsieur Lepic et moi irons tout à l'heure à la chasse. Comme on rentre tard, j'avale ma soupe et je me couche éreinté. N'oubliez donc pas ce soir de fermer les becs. D'ailleurs, c'est toujours vous qui les fermez.
Oh, pas de plus ou de moins.
Oh, Annette, les premières fois que vous traverserez cette cour, noire de nuit, sans lanterne, la pluie sur le dos, le vent dans les jupes...
J'aurais de la veine si j'en réchappe.
Mais hier soir, vous n'étiez pas là, j'ai dû les fermer. Je vous certifie, Annette, que ça émotionne.
Vous êtes donc peureux.
Ah non. Permettez. Je suis pas peureux. Mme Lepic vous le dira, elle même si tout ce qu'elle voudra, mais je suis brave. Regardez cette grange. C'est là que je me réfugie quand il fait de l'orage. Eh bien, Annette, les plus gros coups de tonnerre m'empêchent pas d'y continuer une partie de prison au vol.
Tout seul?
C'est aussi amusant qu'à plusieurs. Quand j'ai un gage, j'embrasse ma main. Ou le mur. Voyez, si j'ai peur. Mais chacun notre zogne, Annette. Une des vôtres, d'après les instructions de Mme Lepic, c'est de fermer les bêtes le soir. Et vous les fermez.
Oh, c'est inutile de nous chamailler déjà. Je veux bien, je suis pour Paul Trump.
Mais moi non plus, Annette, j'ai peur de rien, ni de personne. Parfaitement, de personne. Mais il s'agit de savoir qu'il nous deux ferme les bêtes. Or, la volonté de Mme Lepic, sa volonté formelle...
Parle de carotte. Tu les fermeras tous les soirs.
Oui, maman.
Bonjour, madame.
Bonjour, Annette. Il y a longtemps que vous êtes là?
Oh non, madame, un quart d'heure.
Tu ne pouvais pas venir me chercher?
J'y allais, maman.
J'en doute.
Pas, Annette. Ah oui, madame.
Tu pouvais au moins la faire entrer. On ne t'apprend pas la politesse à ton collège.
Oh, j'étais bien là, madame. Et puis, je causais avec monsieur votre fils.
Ah, vous causiez avec monsieur mon fils, poil de carotte. C'est un beau parleur.
Comment je la renseignais?
Sur ta famille. Il a dû vous en dire.
Oui, madame, c'est un trop bon petit jeune homme.
Oh, non, Annette. Il n'a pas perdu son temps avec vous. Ôte donc tes mains de tes poches. Je finirai par te les coudre. Regardez ces baguettes de tambour. Il userait un pot de pommade tous les matins si on lui en donnait. Et ta cravate?
Mais tu dis que j'ai pas besoin de cravate à la campagne.
Ouais. Et tu as encore sali ta blouse. Il n'y aurait qu'une crotte de boue sur la terre, elle serait pour toi.
C'est la pioche.
Tu pioches ta blouse maintenant.
Je vais lui donner un coup de brosse, madame.
Oh, il a fait votre conquête, Annette. Vous avez de la chance d'être dans les bonnes grâces de poil de carotte. N'y est pas qui veut. Laissez. Il se brossera sans domestique. Vous devez être lasse, ma fille. Entrez à la maison, vous rafraîchir et vous prendrez un peu de repos dans votre chambre. Poil de carotte, monte de la cave une bouteille de vin.
Oui, maman.
Et cours à la ferme chercher un bol de crème.
Oui, maman.
Hop, ensuite. Votre mal est à la gare.
Oui, maman.
Poil de carotte ira la prendre sur sa brouette.
Oh!
Ça te gêne?
Je me dépêcherai.
Tu as le feu derrière?
Non, maman. Mais je dois aller à la chasse tout à l'heure avec papa.
Mais tu n'iras pas à la chasse tout à l'heure avec papa.
C'est que mon papa...
J'ai déjà fait observer qu'il était ridicule à ton âge de dire mon papa.
C'est que mon père me demande d'y aller et que j'ai promis.
Tu les promettras. Où est-il, ton père?
Fais sa sieste.
Pourquoi ce mouvement? Annette va croire que je te fais peur. Je ne veux pas que tu ailles à la chasse.
Bien, maman. Qu'est-ce qu'il faudra dire à mon père?
Tu diras que tu as changé d'idée. Inutile de te creuser la tête. Ce matin, si tu répondais quand je te parle...
Oui, ma mère. Oui, maman.
Et maman, tu boudes.
Je ne boude pas.
Si, tu boudes. Pourquoi? Tu n'y tenais guère à cette partie de chasse.
J'y tenais pas.
Tête de bois. Ah, ma pauvre amie. On ne le mêle pas comme on veut, celui-là.
Il a pourtant l'air bien dessus.
Lui, rien ne le touche. Il a un cœur de pierre. Il n'aime personne. N'est-ce pas, poil de carotte?
Si, maman.
Non, maman. Ah, si je n'avais pas mon Félix.
Madame Bevy, on peut vous dire un mot? Mm-hmm. Merci, ma reine.
Merci, ma reine.
Puisque vous êtes debout, hein, et que justement on était à la campagne, eh bien, chantez-nous donc un petit coquelicot.
Myosotis et puis la rose, ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots et n'aimer que ça, faut être idiot. T'as peut-être raison, oui, mais voilà, quand je t'aurai dit, tu comprendras. La première fois que je l'ai vue, elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été, au beau milieu d'un champ de blé. Et sous le corsage blanc, là où battait son cœur, le soleil gentiment faisait vivre une fleur. Comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. C'est très curieux comme tes yeux brillent en te rappelant la jolie fille. Ils brillent si fort que c'est un peu trop pour expliquer les coquelicots. T'as peut-être raison, seulement voilà, quand je l'ai prise dans mes bras, elle m'a donné son beau sourire. Et puis après, sans rien nous dire, dans la lumière de l'été, on s'est aimé, on s'est aimé. Et j'ai tant appuyé mes lèvres sur son cœur qu'à la place du baiser, il y avait comme une fleur. Comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. Ça n'est rien d'autre qu'une aventure, ta petite histoire, et je te jure qu'elle ne mérite pas un sanglot, ni cette passion des coquelicots. Attends la fin, tu comprendras, un autre l'aimait, qu'elle n'aimait pas. Et le lendemain, quand je l'ai revue, elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été, au beau milieu du champ de blé. Mais sur le corsage blanc, juste à la place du cœur, il y avait trois gouttes de sang qui faisaient comme une fleur. Comme un petit coquelicot, mon âme, un tout petit coquelicot.
Thank you.
Eh bien, mon cher Marcel Molucci, nous étions tout à l'heure à la Comédie Française pour Poil de Carotte.
Oui.
Mais est-ce que, pour revenir à la Comédie Française par le côté poétique, alors, est-ce qu'il n'y a pas un poète qui soit pour vous le plus grand poète?
Eh bien, après Villon, Baudelaire.
Vous allez entendre un poème de Baudelaire qui va être dit par Françoise Angèle.
Une charogne. Charles Baudelaire. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture comme afin de la cuire à point et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe vous crûtes vous évanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride d'où sortaient de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait, montait comme une vague ou s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps enflé d'un souffle vague vivait en se multipliant. Et ce monde rendait une étrange musique comme l'eau, comme le vent, ou le grain qu'un vaneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. Les formes s'effaçaient, il n'était plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir sur la toile oubliée et que l'artiste achève seulement par le souvenir. Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épiant le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Et pourtant, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection, étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion. Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez sous l'herbe, les floraisons grasses moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés.
Pour finir, Molucci, qu'est-ce qui vous ferait plaisir?
Eh bien, ce qui me ferait plaisir, j'aimerais bien entendre une chanson.
Voilà, ah, pour une fois.
Oui, j'aimerais beaucoup entendre une chanson.
Alors, toujours dans votre joie de vivre, attaché aux gens qui démarrent, aux gens qui rencontrent le succès.
Exactement.
Eh bien, nous allons faire un petit assortiment, parce que vous êtes tout de noir vêtu, et nous allons maintenant faire chanter pour vous permettre à votre tour d'être spectateur dans cette émission. Nous allons vous faire chanter pour vous une jeune fille toute de noir vêtue aussi, et c'est Mick Michel. Moi, je trouve qu'il y a une chanson de vous qui s'associe parfaitement à l'idée qu'on se fait de Molucci. Molucci, quand on le voit dans ses films, c'est quand même, et c'est vrai, c'est un gamin de Paris.
Un gamin de Paris, c'est tout un poème dans son cabis. Il a ni à le même car c'est un titi, petit gars des gondes que l'on aime. Un gamin de Paris, c'est le tout mélange d'un ciel affranchi, du diable et d'un ange, et son œil s'attendrait devant une orange. Pas plus haut que trois pommes, il lance un défi à l'aimable bonhomme qui lui disait mon petit. Un gamin de Paris, c'est une cocarde, bouton qui fleurit dans un pot de moutarde, il est tout esprit, esprit de Paris qui musarde. Pantalon trop long pour lui, toujours les mains dans les poches. On le voit qui dégarpille, aussitôt qu'il la voit un képi. Un gamin de Paris, c'est tout un poème dans son café. Il a ni à le même car c'est un titi. Petit gars dégourdi que l'on aime. Il est héritier lors de sa naissance de tout un passé lourd de conséquences. Et ça, il le sait, bien qu'il ignore l'histoire de France. Sachant que sur les places, pour un idéal, des petits gars pleins d'audace, à leur façon, firent un bal. Un gamin de Paris, rempli d'insouciance, voyeur et ravi de la vie qui danse. S'il faut que dans un fiacre chanterait dans la danse. Un gamin de Paris, Paris. À mettre Paris en bouteille.
Moi, je trouve que c'était tellement bien la fin avec la salle qui chantait qu'on va se repayer ça encore un coup. Allez.
C'est pas tout seul.
Non. La 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 la, quand on sait pas les paroles.
Un gamin de Paris m'a dit à l'oreille, si je pars d'ici, je te jure que la veille, la 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 la, à être Paris en bouteille.
Cinéma musical à Paris, Henri Spade et Robert Chazal ont présenté aux auditeurs et aux spectateurs de la radiodiffusion Télévision Française la joie de vivre. Émission publique télé-radio diffusée animée par Jacqueline Joubert et Henri Spade. Avec aujourd'hui Mouloudji et Berthe Bovy, société honoraire de la Comédie Française, André de Chauvron de la Comédie Française, Damia, Françoise Angèle de la Comédie Française, Mick Michel, Lia Origoni et Paul Brafort, Henri Crolla, Serge Grave, Jean Peignet, Albert Préjean, Jean-Paul Roussillon de la Comédie Française, Francis Valbray, speaker Charles Bassompierre, avec bien entendu Robert Lamoureux, l'orchestre sous la direction du compositeur Jacques-Henri Riss et le public de...
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 26 juillet 1953. Vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr.